Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Bienvenue dans Alors, c'est pour bientôt, le podcast entièrement dédié à la PMA et au désir de maternité quand ça ne marche pas comme on se l'imaginait. Alors, c'est pour bientôt vous propose un nouvel épisode, un mercredi sur deux, et donne le micro à une femme ou à un couple qui décide de partager son parcours, ses joies, ses galères, ses questionnements, ses découvertes, et qui contribue ainsi à libérer la parole autour de la fertilité. Dans ce tout premier épisode, je suis très heureuse de vous présenter Flavie. Flavie nous parle depuis le sud de la France de son combat pour devenir maman. Maman d'une petite fille partie trop tôt et entrepreneur, Flavie est tout simplement bluffante de par son positivisme à toute épreuve. Et son entreprise, Baby Hope, résume bien son état d'esprit. J'ai trouvé moi-même qu'il était à point nommé de lancer ce podcast sous le signe de l'espoir. Alors sans plus attendre, voici ma rencontre avec Flavie. Bonjour Flavie, bienvenue sur le podcast.
Bonjour Anne-Fleur, enchantée, merci de m'accueillir ici.
Avec grand plaisir. Alors, tu nous parles d'où aujourd'hui ?
Alors, moi, je suis en direct à côté de Toulouse, donc dans le sud de la France. Voilà, un petit peu loin du coup de chez toi.
Oui, tout à fait. Écoute, donc merci beaucoup de te rendre disponible aujourd'hui. Pour les auditeurs qui ne le savent pas, nous enregistrons aujourd'hui le 1er janvier. Donc, c'est pas une journée qui est super facile au niveau de la grande forme. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que tu fais dans la vie, quel âge tu as, à quoi ressemble un peu ta vie de tous les jours, hein?
Alors, donc moi, donc c'est Flavie. Donc, j'ai 32 ans depuis peu. du coup, donc 32 ans sur Toulouse. Je suis à la base, je suis responsable d'agence d'une entreprise de service à la personne depuis déjà maintenant 5 ans. C'est une reconversion que j'ai fait depuis peu. Avant, j'étais dans la biologie, donc tout ce qui était bactériologie, tout ça. Mais j'ai fait des études scientifiques et voilà, je me suis reconvertie pour avoir un métier beaucoup plus proche des gens et voilà, beaucoup plus utile, on va dire. Donc voilà un petit peu ce que je fais au quotidien.
Très bien, merci beaucoup. Alors, comme tu le sais, le but de ce podcast, donc, c'est de libérer la parole autour de la PMA, des questions de fertilité. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu dans quel cadre, justement, tu vas nous parler de la PMA aujourd'hui?
Alors, donc oui, au niveau PMA, en fait, donc là, moi, c'est un parcours qui est un petit peu long. J'y suis depuis, on va dire, fin 2014. Donc, ça va faire déjà donc 5 ans. Cinq bonnes années. Du coup, on est dessus. Parce que, du coup, j'ai mon mari que je connais depuis maintenant plus de 14 ans et qui a eu malheureusement, en fait, il y a un peu plus de 10 ans, une leucémie, donc un cancer du sang, qui a fait que suite aux différents traitements de chimiothérapie, rayonthérapie, il est devenu stérile. Donc du coup, au début de sa maladie, heureusement les médecins ont pensé du coup à congeler son sperme en paillettes. Donc on savait en fait déjà depuis assez longtemps qu'on serait obligé de passer par PMA du coup pour avoir un enfant.
D'accord, ok. Donc vous le saviez dès le début. Quand est-ce que vous est venue l'envie d'avoir un enfant et de créer une famille?
Alors ça, cette envie-là, on l'avait déjà depuis, on va dire, presque le début. C'est quelque chose qu'on parlait ouvertement dès qu'on a été ensemble. On savait qu'on voulait se marier, qu'on voulait avoir des enfants. Du coup, ça a été un peu la maladie qui a mis tout ça en pause. On était prêts à ce moment-là, on va dire. Mais du coup, il a fallu prendre soin surtout de lui à ce moment-là. Donc, à la fin, en fait, de ces traitements, on s'est mariés. Du coup, il m'a fait sa demande. Moi, j'étais très d'abord le mariage, puis les enfants après. Donc voilà, on a fait ça dans l'ordre, on va dire. Donc on s'est mariés en 2013. Et tout de suite après le mariage, on savait que c'était quelque chose qu'on voulait lancer. Donc sachant que voilà, il y aurait beaucoup de démarches, on savait pas trop comment ça allait fonctionner. Ça nous a pris on a mis un an, on va dire, avant réellement de lancer les démarches, hein, vu qu'on en a profité pour déménager. On a déménagé avec le mariage du coup sur Toulouse. Avant, on était dans le nord de la France. Et donc du coup voilà, c'est fin 2014, une bonne année après le mariage où on s'est dit bon bah allez, c'est le moment de se lancer.
D'accord. Et alors du coup justement, à quoi ça ressemble les démarches? Donc vous saviez qu'il y avait des paillettes qui étaient disponibles. À quoi ça ressemble les démarches? Par où est-ce qu'on commence? Tu peux nous raconter un petit peu?
Alors oui, alors ça a été un petit peu la surprise, parce que pour moi c'était vraiment, comme c'était vraiment une évidence, ça faisait déjà du coup depuis 2008, donc ça faisait 6 ans qu'on savait qu'on allait passer par ça. Pour moi c'était, je prenais un rendez-vous et le mois d'après on enchaînait en fait. C'était ouais. Pour moi ça allait être vraiment très simple, surtout que bah, comme je l'ai dit au démarrage, j'ai fait des études de biologie, donc pour moi la PMA, la FIV, tout ça, enfin moi je connais, c'est quelque chose que j'ai étudié et je savais que c'était, enfin pas, pour moi c'était pas compliqué en soi, enfin pour moi c'était vraiment une aide médicale mais qui allait être simple, on va dire. Donc bah, au début on appelle bah, un centre de PMA à côté de chez soi et on demande tout simplement voilà comment ça se passe. Donc on a un premier rendez-vous du coup avec une gynécologue sur place. Donc bah du coup on se déplace, c'est là où on fait le point de nos problèmes, on va dire, de fertilité. Donc on a le droit à toute une batterie d'examens de type échographie pelvienne, spermogramme, des sérologies avec des prises de sang, enfin voilà, pour faire en gros un bilan du couple, pour savoir après.
D'accord, donc on te reteste même si tu viens en disant je sais.
Oui.
Je sais ce qu'on a besoin, d'accord.
Tout à fait, je sais pourquoi on est là, mais non, en fait ils veulent quand même faire la batterie d'examen, vu que nous on venait du fait que mon mari était stérile, mais ils ont quand même voulu retester, être sûr, et puis bah moi du coup aussi voir de mon côté, voilà, si j'avais pas moi aussi un problème quelconque. Donc ça nous a pris, on va dire, les démarches à peu près un an, ouais, c'est pas à peu près. Ça a été, oui, on a dû avoir notre premier rendez-vous en novembre 2014 et le premier transfert a été en décembre 2015. Donc voilà, un an et un mois après. Tout simplement parce que bah, les rendez-vous sont longs, en fait, entre chaque spécialiste. Pour nous, ça a été à peu près trois mois à chaque fois entre, bah, au début, la gynécologue. Puis après, il fallait voir un andrologue pour mon mari. Puis bah, le temps de faire les échographies, revoir la gynéco pour en parler. Il faut voir un biologiste, il faut voir la psychologue du centre de PMA. Et en fait, les mois passent. Wow. Il y a l'été aussi, où souvent les centres PMA sont fermés. Donc du coup, bah c'est très long. Et c'est là qu'un peu, bah, déjà, je me suis rendu compte que oui, ça n'allait pas forcément être très facile du fait que je pensais vraiment que ça allait se faire, moi, en 2-3 mois après, on allait pouvoir commencer.
Ouais, donc psychologiquement même, c'est pas évident de se dire finalement, voilà, on a dû attendre un an, quoi. C'est pas facile.
Mais okay. C'est vrai qu'au départ, c'est le mélange d'excitation un petit peu. On se lance, on se dit, allez, on va y arriver. Enfin, ça y est, on est parti. Et c'est vrai qu'en fait, les mois passent, c'est très lent entre les rendez-vous. Mais on a cette adrénaline du démarrage qui fait que finalement, ça passe quand même assez vite hein, sur cette première année, parce qu'on a quand même beaucoup d'examens, tout ça. Donc là encore, ça va.
D'accord. Et alors, question logistique qui va peut-être te paraître un petit peu bête, mais du coup, ton mari, donc quand il était malade, c'était dans le nord de la France. Ça pose pas de problème. Enfin, c'est assez facile de rapatrier, si je puis dire, les paillettes.
Tout à fait, je voulais en parler du coup. Ça a été, oui, dans l'année un peu la partie un petit peu rigolote, parce que du coup, donc ces paillettes étaient donc à Tours, en Touraine, et c'était à nous, en fait, de les ramener à Toulouse. Donc on a dû aller au Sécos du coup de Tours pour ramener en fait une boîte avec de l'azote et les paillettes à l'intérieur, pour les ramener en voiture du coup à Toulouse et refaire le retour pour aller ramener la boîte. Non, c'était un peu c'était à nous de le faire. Donc on a ramené que la moitié des paillettes, parce qu'on s'est dit que, imaginons que, je sais pas, il y a un accident sur la route ou quoi que ce soit, c'était les seules qu'on avait, donc voilà. Mais bon, pour l'instant ça nous suffit au niveau de la quantité, donc la moitié pour l'instant, voilà. On n'a pas encore mangé la moitié des paillettes.
Ah, super. Ok, d'accord. Donc, au bout d'un an, vous avez fait tous vos examens. Là, vous revoyez le médecin qui vous dit, ok, on vous propose un plan d'action.
C'est ça. En fait, le dernier rendez-vous, c'est avec le biologiste. Et là, quand on le voit, il nous sort directement les ordonnances et il nous dit, sur votre prochain cycle, on commence. Alors là, c'est juste, on est juste excités, trop contents. On se dit, enfin, quoi, ça y est, on se lance. Et dans notre tête, c'est limite le mois prochain, on est enceinte, quoi. C'est surtout, en plus, les médecins, comme on avait, j'ai pas de problème, j'ai aucun problème de fertilité. Donc, du coup, les médecins n'arrêtaient pas de nous dire, dès le premier cycle, ça va marcher, quoi. Tout le monde me disait autour, il y avait rien qui faisait que ça ne pouvait pas marcher, quoi. Donc c'est vrai que pour moi, j'étais persuadée que là, sur la première FIV, j'allais tomber enceinte. On était du coup de transfert début décembre, donc dans ma tête, j'étais déjà, waouh, c'est Noël, ça va être génial, c'est parti, quoi. Finalement, on n'aura attendu que un an, comme un peu tous les couples en ce moment, qui maintenant beaucoup de couples mettent quasiment un an à tomber enceinte quand elles ne passent pas par PMA. Donc ça me paraissait pour l'instant, un parcours tranquille, bien, on va dire, bien parti.
D'accord. Et alors, donc raconte-nous un petit peu comment ça se passe ce premier transfert.
Alors, donc moi je suis en protocole. Donc le premier c'est une FIV. Moi je suis passée directement en FIV ICSI pour faire la partie scientifique. Je n'ai pas eu d'insémination avant, tout simplement parce que du coup il n'y avait pas assez de sperme par paillette, qui faisait que je ne pouvais pas avoir d'insémination. On n'allait pas, on va dire, gâcher des chances. Donc on est passé directement en FIV et en FIV ICSI, c'est-à-dire vraiment avec sélection des ovocytes et des spermatozoïdes, puisque en plus ils n'étaient pas en super forme. Donc comment ça se passe? Donc j'ai à peu près 15 jours de stimulation, donc c'est-à-dire une à deux piqûres par jour. Donc moi c'était du purégon et du cétrotide, une à deux piqûres par jour avec des contrôles du coup au centre de PMA tous les 3 jours, on va dire. Tous les 3 jours il faut se déplacer du coup à l'hôpital pour aller faire une échographie pelvienne et une prise de sang pour du coup contrôler les hormones, voir la taille des follicules pour savoir à quel moment on va ovuler en fait. Et après, donc au bout à peu près de entre 10 et 15 jours de traitement, on a la fameuse piqûre qui nous permet de vouloir déclencher l'ovulation. Et donc pile poil à peu près 32 heures après cette fameuse piqûre, il faut se rendre à l'hôpital du coup pour faire le prélèvement des ovocytes. Donc là, c'est la ponction du coup des ovocytes. Et là, c'est le stress, le grand stress.
Tu l'as fait sous anesthésie générale ou?
Alors, local, c'est-à-dire que j'étais encore plus en stress, parce que du coup, on se dit quand même, la piqûre à cet endroit-là, à quoi ça va ressembler, est-ce qu'on va avoir mal, et puis on lit beaucoup de choses sur Internet où on se dit, oh là là, mais je vais avoir trop trop mal. Et en fait, j'ai la chance, dans toutes les ponctions que j'ai eues, de quasiment rien sentir. L'anesthésie se passe très très bien, malgré qu'à chaque fois, du coup, je fais à peu près une bonne vingtaine de follicules à ponctionner. Donc ça fait pas mal. Donc voilà, la première FIV, le premier essai, c'est la ponction, c'est vraiment le stress. Je craque totalement après en salle de réveil parce que c'est, comme je dis depuis tout à l'heure, c'est vraiment l'excitation. On touche le but en fait. On arrive presque au bout. Donc 2 jours après, on revient au centre et là, c'est le jour du transfert du coup.
Okay.
Donc là, oui, 2 jours après, on me transfère un embryon. Donc là, ça fait pas mal. On voit à l'écho. Il nous montre, ça fait une petite tache blanche qui est déposée au fond de l'utérus, tout ça. Enfin voilà, c'est vraiment un grand moment d'émotion. Et on ressort du coup tout doucement pour pas le brusquer. On a peur que ça tombe. Ouais. Je me rappelle que c'était ça surtout les premières fois. C'est on se dit, oulala, mais est-ce que je vais faire pipi après, parce que on a peur de se dire, oh mais ça peut faire tomber l'embryon. Quand on rentrait après à la maison, du coup, en prenant la voiture. Attention aux dodanes, c'est des trucs tellement bêtes, mais voilà, c'est le début, on est dans l'inconnu et on a tellement envie que ça marche. Donc après le transfert, donc moi j'ai été arrêtée juste le jour de la ponction jusqu'au jour du transfert, donc 2-3 jours, c'est tout. Et après j'ai repris le travail et du coup après la fameuse prise de sang des bêta-HCG et 15 jours après. Donc là, c'est 15 plus longs jours à chaque fois des traitements, parce que là, c'est le suspense. On ne sait pas. on a des symptômes bizarres, on a mal au sein, on a mal au ventre, mais ça, on sait que c'est la progestérone qu'on nous donne en plus, c'est des petites ovules qu'on nous donne en plus pour la suite du transfert, et ça nous donne plein de symptômes de grossesse, donc du coup on y croit à fond. Et du coup, voilà, 15 jours après, la fameuse prise de sang.
D'accord.
Donc pour le suspense, voilà, sur la première, du coup, qui a été négative.
D'accord.
Donc et là, on tombe de haut. Enfin, moi, je suis vraiment tombée de haut sur cette première parce que du coup, vraiment,
mais
pour moi,
avec tous ces symptômes-là, t'y crois quoi.
Mais c'est ça, on connaît pas et on se dit waouh, mais j'ai les seins grossis, j'ai mal au sein, j'ai, enfin, tous les trucs de symptômes de grossesse, et tout le monde qui me disait mais ça, enfin, c'est juste, on est obligé de passer par FIV pour les mettre ensemble, mais en gros. Enfin voilà, ça a marché direct quoi. Et là, ça marche pas. Et là, c'est très dur parce que là, on se dit ah oui, en fait, ça va peut-être pas être si simple que ça finalement.
Ouais.
Donc c'est la grosse déception. Surtout que je l'ai appris, je crois, genre le 19 décembre, quelque chose comme ça, quelques jours avant Noël. J'avais toute ma famille qui venait, tout ça. Enfin, moi, je m'étais déjà imaginé l'annonce. Et donc ouais, c'est le premier échec, c'est assez dur à encaisser parce qu'on a mis tellement d'espoir depuis un an, on va dire, où on s'est lancé dedans. Ouais. Et ouais, c'est dur.
Et alors justement, tu dis ta famille, tu leur avais dit que tu te lançais que vous lanciez dans un parcours, ou vous aviez gardé ça pour vous deux?
Alors, on en avait parlé à personne. J'avais uniquement 2-3 copines qui étaient avec moi. Qui était assez proche, hein, parce que à ce moment-là, j'étais en formation justement de reconversion professionnelle. Donc j'avais des copines où quand je devais m'absenter pendant les cours pour aller aux rendez-vous médicaux, du coup, elles étaient au courant, mais c'est tout. Au démarrage, on voulait en parler à personne, tout simplement parce que comme chaque couple, on a envie de faire la surprise aux gens, en fait. On a envie d'avoir ce moment où on annonce qu'on est enceinte et qu'ils ne s'y attendent pas, en fait, tout simplement. Ouais. Donc non. Vraiment, personne n'était au courant. C'était notre petit secret à nous.
D'accord. Mais bon, du coup, t'avais tes copines avec qui t'as pu en parler. Parce que la question que je me pose, justement, c'est voilà, quand ce premier échec, qui d'abord, un échec, c'est jamais facile à gérer. Mais du coup, t'as ton mari avec qui tu peux échanger, mais pas forcément beaucoup de personnes, du coup, avec qui tu peux aller parler et discuter un peu de ce qui s'est passé, puis de ce que tu ressens, quoi.
Tout à fait. Vraiment, au démarrage, j'avais 3-4 copines, pas plus. Hein. Et encore, c'était des copines qui étaient beaucoup plus jeunes que moi, donc qui n'étaient pas du tout dans cet esprit de vouloir un enfant. Donc bon, elles me suivaient, mais c'était pas, elles n'avaient pas ce ressenti et cette envie de maternité comme je pouvais l'avoir à ce moment-là. Donc c'est vrai qu'on est assez seules. Donc forcément, c'est voilà, on va sur les forums, sur Internet. Moi, c'était ça à ce moment-là, en 2015, c'était ça. C'était les forums pour essayer de poser des questions quand on savait pas sur voilà, les symptômes, des choses comme ça. Mais c'est vrai qu'on est assez assez isolés parce que ouais. Du coup on n'en parle pas, ouais. Quoi. On garde ça pour nous.
C'est dingue, on est tous pareils et c'est pas facile. Alors donc les fêtes se passent. Qu'est-ce qu'ils te disent tes médecins, donc au niveau au moment de ces résultats là est-ce qu'on te dit ok, on peut retenter rapidement? Quels sont les délais? Quel est le processus?
Alors dans le centre PMA où je suis, ils sont du genre à vouloir attendre en fait un cycle de repos pour recommencer. Alors, ce que j'ai pas dit du coup sur ce protocole-là, j'ai pu avoir 2 embryons congelés. J'ai la chance du coup, comme je disais, d'avoir beaucoup, on va dire, de follicules, ce qui fait que ça me donnait quand même pas mal d'embryons. Donc, j'ai pu en congeler quelques-uns. Après, il y en a d'autres où ils ont voulu les pousser, les mettre en culture plus longtemps, on va dire, mais ils n'ont pas tenu. Donc, on a eu le transfert d'un embryon frais, et j'ai pu en congeler 2. Donc, j'avais le droit à 2 autres essais sur cette FIV. Voilà. Donc,
du coup, tu n'avais pas besoin de restimuler.
Voilà. Ben, j'avais pas besoin de nouvelles ponctions. Mais pour les transferts, du coup, j'en ai refait un en février et en mars. J'ai pu enchaîner après, par la suite. Et les transferts, c'est quasiment les mêmes traitements, mais avec des doses moins fortes. Mais j'avais pareil, les 2 piqûres par jour, les contrôles tous les 3 jours. Voilà, j'ai tout pareil, sauf la ponction. Où là, il n'y a pas besoin. Donc, c'est quand même, heureusement, c'est un peu plus léger à ce niveau-là, parce que voilà, la ponction, c'est toujours bon. Même si ça se passe plutôt bien pour moi, si on peut l'éviter quand même, c'est toujours ça de gagner. Donc voilà, mais les médecins, pas de réponse particulière pour eux après. Enfin voilà, si ça marche pas là, bah, ça va marcher sur le prochain quoi. C'est bon, c'était le premier.
Ouais, donc il reste optimiste et
voilà, vraiment très optimiste là-dessus. On a décongelé, j'ai répondu très bien au traitement. Mmh. Voilà, ça, bon, on réessaye. Voilà, c'est ça.
Et ton mari, comment est-ce qu'il dit tout ça?
Mon mari, bah, lui, est très très positif. Donc lui, il prend les choses comme ça vient. Donc, voilà, il attend rien. On va dire que j'ai un homme qui est très où on voit. Il agit en fait quand les choses sont là. C'est-à-dire que bah, tant qu'on n'a pas le résultat de la prise de sang, ouais, bah, on peut pas savoir. Donc ça sert à rien de stresser. C'est que des... il est vraiment très positif là-dessus. Donc pour lui, on repart sur un nouveau cycle à fond, quoi.
D'accord. Ouais, génial. Et toi justement, c'est une question que j'avais. Moi, je sais que j'avais du mal à résister. Tu fais des tests avant les prises de sang ou tu arrives à patienter le moment de la prise de sang?
Alors, au tout démarrage, non, je ne fais pas de test. J'attends vraiment la prise de sang. C'était notre petit moment en couple où vraiment on va à la prise de sang tous les deux. On a le résultat dans l'enveloppe et on l'ouvre ensemble à la maison, quoi. C'est, voilà, on suit au démarrage. J'étais vraiment très à suivre vraiment le protocole. Voilà, il faut attendre, on attend, quoi. Mais ça, c'était au début.
Alors justement, donc c'est deux autres transferts. Qu'est-ce qu'ils donnent?
Alors donc deuxième transfert du coup en février, du coup 2016. Donc là tout pareil, je réagis très très bien. On refait tout. Toujours pas plus d'arrêts médicaux. Je reprends le travail, voilà, rapidement après le transfert. Et malheureusement toujours négatif. Deuxième échec. Donc là, on se dit bon, la première, ça a pas marché. On se disait bon, ça arrive quand même beaucoup que dès le premier, ça ne marche pas, ouais, parce que le temps d'adapter les protocoles, tout ça. Donc on se dit là, maintenant qu'on est calé, le deuxième, bon, ça va marcher quoi. Et ben non, toujours pas. Et là, pas d'explication. Je réagis très bien. On me dit à chaque fois que j'ai un très bel utérus, que j'ai des très beaux embryons, mais ouais, ça ne tient pas.
D'accord.
Voilà. Donc là, vraiment, encore une grosse déception. Donc là, je veux vraiment après enchaîner. Je veux pas attendre. J'essaye en appelant le centre PMA. J'avais pas envie d'attendre encore un cycle. Mm-hmm. Parce que on avait des vacances qui, on calcule tout évidemment. Mm-hmm. Donc après, j'avais des vacances, tout ça. Donc je voulais enchaîner. Ils ont accepté du coup vu que c'était un transfert d'embryon congelé, donc avec un peu moins de traitement. Mm-hmm. Donc on renchaîne en mars. Tout pareil. Tout pareil, nouvel échec. Ça ne prend toujours pas. Là, on se dit mais c'est pas possible. Moi, on me dit à chaque fois que voilà, que tout va bien, que soi-disant ça va marcher rapidement parce qu'il y a rien de particulier, et finalement rien du tout quoi. Ouais. Donc vraiment pas facile à encaisser en fait les échecs. Le troisième, on se dit quand même, un ça marche pas, deux ça marche pas, ouais, le troisième ça va marcher quoi. Ben non. Et toujours pas quoi.
Du coup là, vous retournez voir les médecins pour leur demander un petit peu de vous donner des explications ou comment ça se passe? Qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? Vous êtes accompagnée?
Non, en fait on n'a pas de rendez-vous plus que ça. C'est quand on a l'échec, en fait, il faut appeler le centre PMA et leur dire bon bah voilà, ça a pas marché. Et là, on nous demande juste quand est-ce que vous voulez recommencer.
Ah ouais.
Voilà. Donc, je te donne la date et puis on me renvoie par la poste les protocoles et puis j'enchaîne en fait. J'ai qu'une envie, c'est d'enchaîner tout simplement les traitements parce que je me dis plus on enchaîne et plus vite ça va marcher quoi. Donc en mars, du coup on avait des vacances en avril mai avec les ponts tout ça, donc on a pu reprendre qu'en juin.
D'accord.
Du coup, on a repris en juin et là du coup on est reparti sur une nouvelle FIV entière parce que je n'avais plus d'embryon congelé. Donc là, pareil, on refait tout, toujours les mêmes traitements donc là, de nouveau la ponction en anesthésie locale. Donc là, déjà, on est beaucoup moins stressé parce qu'on sait que ça va bien se passer. donc voilà. Puis les vacances font du bien, donc ça permet de se relancer. Donc on se relance donc pour la deuxième FIV, donc c'est le quatrième transfert. Et là, la prise de sang, par contre, un tout petit taux, un taux à 8. Et là, on se dit, mais c'est pas possible. On cherche partout sur Internet, petit taux, est-ce que ça peut augmenter ou pas après? Mais non, en fait. Enfin, ça a montré qu'il y a une mini accroche, mais après, enfin voilà, ça ne tient pas. Donc là, bon, ça nous rebooste un peu en se disant que bon, finalement, ça peut peut-être s'accrocher, mais bon, il se passe quelque chose, mais bon, ça tient pas, quoi. Donc du coup, bon, après c'est l'été. Donc là, l'été, on se laisse les vacances, et puis de toute façon, le centre PMA ferme. Donc là, on fait une pause. Mmh. Et donc là, sur cette deuxième FIV, pareil, j'ai eu deux embryons congelés. Mais là, cette fois-ci, qu'on a mis en culture plus longtemps, parce que j'avais pu en faire un petit peu plus. Donc là, j'ai deux embryons à 5 jours. Yeah. De J5. Du coup, on appelle ça. Donc, logiquement, les J5 sont des belles qualités, des meilleurs embryons. Enfin, moi, c'est ce qu'on me disait au centre PMA à ce moment-là. Mmh. Donc, on y croit encore plus, du coup. Ouais. Donc là, sur cette année 2016, du coup, donc là, j'ai eu donc décembre, février, mars, juin. Et donc là, du coup, on enchaîne au mois de novembre. En novembre, du coup, on enchaîne ce nouveau transfert. Donc pareil, tout pareil, pareil, jusqu'à la fin, toujours négatif. Là, ça va faire un an et tout est négatif, quoi. C'est, là, c'est vraiment épuisant.
Ouais.
Et puis moralement, et puis physiquement aussi, parce que du coup, c'est vrai que j'ai quand même fait en tout là sur l'année 4 transferts. Donc les hormones, tout ça, c'est vrai que ça fatigue quand même le corps. Et puis on stresse aussi pendant toutes ces périodes. Donc là, vraiment besoin d'une pause, même si j'étais pas forcément pour. Mais j'ai mon mari là qui me pousse vraiment à déconnecter, là à essayer autre chose. Donc là, par contre, pareil, on se met sur les forums et on essaie de voir qu'est-ce que les autres ont fait en fait, parce que moi, à part suivre le centre PMA, sinon je savais pas trop. Donc là, par contre, on se lance dans tout ce qui est médecine douce. C'est à ce moment-là que je commence. J'entends parler d'un monsieur qui fait de l'acupuncture à côté de chez moi, qui soi-disant a des super résultats. Donc là, on commence à enchaîner les séances, voir aussi il était naturopathe, donc avec des plantes. Enfin on essaye d'autres choses. Je vais voir une psy aussi à ce moment-là, parce que là par contre là, j'ai besoin qu'on m'aide. Là ça commence à être dur. Moi je commence à vraiment fatiguer, et dans notre couple, ça se ressent aussi. Là, au bout d'un an, cinq transferts, la pression. Enfin, moi, je mets une pression de dingue en fait à mon mari. J'ai vraiment envie d'être enceinte, et du coup, ça fait des conflits dans le couple. Ça, beaucoup de couples le passent par là, malheureusement. Donc je vois une psy qui m'aide, sur quelques séances, à essayer de lâcher prise. C'est le mot à la mode.
Oui, c'est ça.
On essaye. Bon, j'ai encore du mal à ce moment-là. Donc, j'ai fait quelques séances et puis j'arrête. J'en sens plus le besoin, donc j'arrête. On laisse passer les fêtes, tout ça, et puis on se dit avec la nouvelle année, du coup, on va retester. Donc là, on reteste en février. Donc février pour le sixième transfert, et toujours pareil de A à Z, même traitement, tout se passe bien, je réagis bien, j'ai un bel endomètre quand j'y vais, les sages-femmes sont adorables, elles me disent « Ah, mais il est trop beau votre endomètre, les embryons sont superbes, voilà. » Et puis, toujours le résultat, là, cette fois-ci, une petite accroche, mais pareil, très faible, je crois à peu près 27, 28, quelque chose comme ça, pareil. Le truc qui nous donne la fausse joie, en fait. Une mini accroche de rien du tout, quoi. Et ça ne veut toujours pas marcher, quoi.
Et là, à ce stade-là, on se dit pas, peut-être que... Parce que les petites accroches, du coup, tu les as quand les embryons ont été cultivés plus longtemps. Est-ce qu'ils envisagent pas un ajustement de protocole ou...
Alors là, du coup, la deuxième FIV... est fini. Là, je termine mon dernier embryon. Donc là, on arrive à deux FIV qui n'ont pas marché et il m'en reste plus que deux. Donc, le centre PMA, là, nous donne un rendez-vous, par contre, obligatoire, de milieu de parcours, ils appellent ça. Donc là, j'ai un rendez-vous avec la gynéco pour faire un point, par contre, sur tout ça.
Et alors, quand tu dis qu'il t'en reste que deux, c'est quoi? C'est que tu as le droit, en fait, de n'en faire que quatre au total? C'est ça que tu veux dire?
C'est ça. Voilà. En France, c'est vrai que c'est pas pareil dans tous les pays. En France, on a le droit à quatre FIV remboursées par la Sécurité sociale.
D'accord.
Donc, okay. Quatre FIV. Sachant qu'une FIV, c'est une ponction et le transfert de tous les embryons que ça a donné. Donc, malgré que j'étais à six transferts, ça m'a compté que deux FIV.
D'accord, compris.
Donc donc rendez-vous à milieu de parcours. La gynéco qui pas très réceptive, qui me dit « Ah, mais non, mais ça va marcher, il n'y a pas de raison, il n'y a rien. » Et là, moi, je commence en fait à m'énerver, à me dire « Mais c'est pas possible, en fait, à un moment, il faut peut-être me faire des examens, quelque chose. » Enfin, je sais pas, ça ne marche pas. Enfin, faites-moi quelque chose en plus. » Donc là, du coup, elle décide d'être gentille avec moi et de me faire une échographie en fait en milieu de cycle pour voir justement comment est mon endomètre à ce moment-là et comment est ma vascularisation de mon endomètre au moment de l'ovulation et de l'anidation au milieu de parcours. Du coup, je fais cet examen-là et il s'avère que j'aurai un flux sanguin qui est pas assez puissant, on va dire, pour faire court. Donc, du coup, la gynéco me donnera des traitements pour fluidifier le sang, pour aider à fluidifier le sang du type aspégique nourrisson, pentoxifiline, qui est un vasodilatateur, pour m'aider à mieux vasculariser mon utérus, justement, pour essayer que ça s'accroche au mieux. Donc voilà, j'ai enfin voilà peut-être une petite explication. Bon, après à voir parce que en fait finalement ce cycle-là était un petit peu plus long, donc j'étais pas vraiment au milieu de mon cycle finalement. Donc je me dis est-ce que bon, on verra bien. Au pire ça peut pas faire de mal, c'est des petits compléments en plus. Donc voilà. Donc là elle me donne ça en plus. Donc là on était en février. Et là, c'est pareil. Je souhaite vraiment continuer tout ce qui est médecine douce et essayer de prendre plus soin de moi. Donc là, par contre, je commence tout ce qui est alors ça s'appelle le shiatsu. C'est comme l'acupuncteur, mais sans les aiguilles. Les aiguilles de l'acupuncteur, c'était pas trop ça. Ça me stressait assez. Donc j'ai pas trouvé. C'était pas pour moi en tout cas. Donc j'ai mon mari qui faisait des séances de shiatsu où ça l'aidait beaucoup sur le stress. Et donc du coup il m'a dit mais vas-y, va voir et tout. Et en fait oui, j'ai trouvé dans ce genre de séance beaucoup de relaxation. Ça m'a fait un bien fou. J'ai également été voir une médium, voilà, parce qu'on est prêt à tester pour tomber enceinte. Donc cette dame en fait avait besoin de libérer des énergies, je sais pas quoi. Donc bon, je lui ai fait confiance, je suis allée voir une médium, je suis allée voir une énergéticienne aussi. Enfin voilà, on essaye plein de choses pour se dire que voilà, on se laisse quelques mois de répit pour booster le corps à fond et essayer de repartir sur cette troisième FIV vraiment à fond de chez à fond.
D'accord.
Donc voilà, donc on était en février 2017 et donc prochaine FIV, on essaiera du coup en octobre. À la rentrée, on laisse passer quelques mois, on laisse passer l'été et en septembre, on se relance pour un transfert au mois d'octobre. Donc la troisième FIV, du coup, donc toujours pareil, les mêmes traitements, tout ça. Je continue du coup mes séances de shiatsu, j'y vais toutes les semaines, j'y vais la veille du transfert. Enfin, vraiment, je me mets à fond là-dedans. Et donc là, par contre, je fais une hyperstimulation. C'est-à-dire que je réagis même trop bien au traitement. Donc je pense que tout ça, le fait d'être moins stressée, je sais pas, ça a dû booster un petit peu mon corps. Et donc du coup j'ai eu mon transfert je sais plus, en fin de semaine, un vendredi ou un samedi. Le mardi j'ai dû aller à l'hôpital parce que je commençais à avoir un ventre gonflé qui me faisait très mal. Donc là, moi, je me doutais que c'était ça au vu de tous les commentaires sur Internet. Donc du coup, je suis allée aux urgences et ils m'ont dit que oui, en effet, je faisais une hyperstimulation et que bon, c'était à surveiller, c'était pas encore trop grave. À surveiller, par contre, voilà, revenir si jamais je sentais que au niveau respiratoire, ça s'aggravait. Et donc, je sais pas, c'était le mardi et je crois le vendredi, un truc comme ça. Là, j'y retourne parce que là, vraiment, ça va vraiment pas. Et là, en effet, j'ai du mal à respirer. Donc là, direct aux urgences, et j'ai été hospitalisée une semaine, du coup, parce que là, j'avais le ventre qui avait énormément gonflé, je commençais à avoir un épanchement, donc du liquide dans le ventre. Et en fait, comme le liquide remontait un petit peu vers les poumons, c'est ça qui comprimait les poumons et qui... Voilà, où j'avais du mal un petit peu à respirer. Mais bon, tout était bien surveillé. Enfin, voilà, j'ai pas eu plus de complications. Mm-hmm. Ce qu'il fallait faire gaffe, c'était au niveau des ovaires, qui avaient, je sais pas, triplé, quadruplé. Ils faisaient 12 centimètres.
Oh, ouais, wesh. Un gros pamplemousse.
De pamplemousse. Ouais. Ouais. Donc, ça fait très mal. Ouais. Et ça fait très mal. Et donc, du coup, c'est à surveiller parce que si jamais on tombe enceinte, ça s'empire. Ouais. En fait, la bêta-HCG, l'hormone, fait que ça empire les symptômes. Ouais. Sachant que, voilà, il y avait une aggravation dans la semaine, c'est vrai que pour moi, je me disais que ça sentait peut-être bon, cette fois-ci. Et les infirmières à l'hôpital, tout ça, commençaient à me dire, oh oui, souvent dans ce cas-là, ça peut être positif. Donc, du coup, voilà, c'était un peu la semaine très, très longue pour attendre le résultat.
Ouais, riche en émotions, j'imagine.
Oui, c'est ça. On se dit, j'espère que je souffre pas pour rien cette fois-ci.
Ouais, bien sûr.
Et donc, du coup, c'était un dimanche, le jour du résultat. L'infirmière, le matin, 5 heures du matin, qui m'oublie de faire le tube qu'il faut pour faire le résultat. Enfin bon, ça a été la galère. J'étais en pleurs dans la chambre. Et là, il s'avère que l'infirmière rentre et me dit que c'est positif. J'ai enfin mon positif, quoi. Et puis là, je demande tout de suite le taux. Parce que avec les mini accroches, et là j'étais à 517, un vrai taux de femme enceinte, quoi. Donc là on était juste aux anges, aux anges.
Ton mari était avec toi quand t'as appris ça?
Ah non, il était parti justement chercher des affaires à la maison et aller me chercher un test de grossesse parce que je commençais à péter un câble dans la chambre. Donc bon, je lui ai dit au téléphone le temps qu'il a, mais il est arrivé bon 2-3 minutes après, quoi. Donc on était juste heureux. J'ai fait mon pipi sur mon petit test de grossesse pour voir ce plus. Voilà, on était vraiment mais ravis. Donc j'ai été encore hospitalisée, je crois 3-4 jours, histoire voilà d'être sûre que ça s'aggrave pas plus et que voilà ça se stabilise. Et là voilà, au bout du 7e transfert, quand même, 7 longs transferts, ça a enfin marché, quoi.
Donc du coup, ce traitement de l'endomètre, enfin la vascularisation de l'endomètre, semble peut-être t'avoir aidé en ce cas.
Voilà, ben en tout cas c'est ce que je me dis, et toutes mes séances de shiatsu pour moi aussi m'ont beaucoup aidé, voilà, parce que j'ai été vraiment beaucoup plus détendue et beaucoup moins stressée que les essais d'avant, en tout cas. D'accord. Donc je suis sûre que oui, tout ça a aidé en tout cas à ce que ça tienne enfin, quoi.
Et alors, du coup, alors comment se passe ta prise en charge? Est-ce que donc tu es transférée auprès d'un obstétricien, ou est-ce que c'est ton gynécologue précédent qui commence le début du suivi de la grossesse?
Alors là, c'est un peu le flou total, parce que du coup, on a été suivi en PMA depuis 2-3 ans, et là, on nous dit d'un seul coup, bon, merci, au revoir, en fait, vous êtes enceinte, maintenant, vous allez ailleurs, quoi. Et là, sauf que moi, j'avais déménagé, donc je n'avais pas de gynéco là où je suis, tout simplement parce que depuis que je suis arrivée je suis rentrée en parcours PMA, donc je n'avais pas de gynéco, pas d'obstétricien, enfin donc là à chercher sur les pages jaunes qui c'est qui peut nous suivre, je trouve une sage-femme au hasard, quoi, à côté de chez moi. Bon, pas plus le feeling que ça, mais bon, bah on fait les premiers contrôles, la première écho, enfin voilà, on fait les je crois que je fais avec elle les trois premiers mois, avec voilà le suivi de grossesse du démarrage. Mais c'est vrai que c'est un peu bizarre, parce que dès le premier mois on nous dit vous êtes inscrit où à la maternité. C'est le jour et la nuit, en fait. On a été beaucoup suivis pendant ce parcours, et là d'un seul coup c'est à nous de gérer, en fait.
C'est de la nature, quoi.
C'est ça. Et du coup c'est un peu perturbant quand même. On sait pas trop comment faire, quoi. Donc les 3 premiers mois se passent bien, j'ai pas de nausées, nickel. Bon, j'ai toujours mal au ventre.
L'hyperstimulation, ça va mieux? Ouais.
Alors l'hyperstimulation est partie au bout de 3 mois, parce que c'est à partir de 3 mois que la bêta-HCG diminue, en fait. D'accord. Dans le sang. Okay. Les 3 premiers mois, ça explose. Donc j'ai eu mal au ventre, les 3 premiers mois. Mmh. J'avais le ventre déjà d'une femme enceinte de 4 ou 5 mois quasiment. Mais bon, après c'est passé, et puis bon, le principal c'est que voilà, c'est que ça avait marché, que j'étais enceinte, et voilà. Par la suite, du coup, on a eu la première échographie. donc la T1 on appelle ça, à 3 mois. Donc là au moins il me vend, ça commence à ressembler déjà à un petit bébé à l'écran, enfin voilà, c'est top. Et sauf que voilà, au moment de l'échographie, la sage-femme bug en fait au niveau du cœur, trouve qu'il y a peut-être une petite anomalie, elle sait pas trop, voilà, elle a un petit doute. Et du coup, nous demande d'aller voir un spécialiste en fait directement à l'hôpital, un cardiopédiatre qui lui pourra vraiment avoir une machine beaucoup mieux pour le cœur, pour voir à ce niveau-là quoi. Donc là, gros stress, ouais, parce qu'on se dit mais non, j'ai déjà galéré pour avoir ce bébé et là je peux même pas avoir enfin un début tranquille quoi. Donc là, ça a été le stress pendant 15 jours parce que du coup les rendez-vous ne sont pas le lendemain à l'hôpital. Donc voilà, et là arrivé donc 15 jours après à l'hôpital pour faire la fameuse échographie. Donc là, il s'avère que oui, le bébé a un cœur en fait entre les deux ventricules, un plus gros que l'autre. D'accord. Voilà, c'est tout ce qu'on nous dit. On nous dit que bon, c'est à voir en fait avec le développement du bébé, de voir comment ça va se développer. Peut-être que ça va se rattraper avec le temps. Bon voilà, on nous laisse avec plein de points d'interrogation parce que de toute façon, pour l'instant, bébé est trop petit, donc on peut pas trop savoir. D'accord. Donc là, je commence à stresser pour la grossesse. Ça y est, là, à partir de 3 mois, c'est plus la le démarrage de cette grossesse insouciante. Là, c'est reparti pour tous les mois avoir des échographies, du coup, jusqu'au terme. Et donc du coup, à 4 mois, là, on voit que oui, en effet, il y a une malformation du cœur qui est pas hyper grave, mais il y a malformation du cœur qui nécessitera une intervention chirurgicale à la naissance. Voilà ce qu'on nous dit. Donc là, c'est le monde, enfin tout s'écroule quoi, parce qu'on se dit mais c'est pas possible quoi, enfin avoir galéré autant d'années et puis pour que ça se passe même pas bien quoi. Donc bon, du coup la grossesse continue, on prépare son arrivée, tout ça. Alors on veut garder le secret du sexe. On ne veut pas savoir à chaque fois à l'écho. On se laisse la surprise à la naissance pour le savoir. Donc voilà. Donc les mois s'enchaînent avec à chaque fois une écho tous les mois. J'ai une amniocentèse. Je ne saurais plus trop. Je ne sais plus à 6 mois ou 7 mois. Je ne sais plus pour voir si au niveau génétique il y avait quelque chose. Heureusement, il n'y avait rien, donc c'était déjà une bonne nouvelle. Et puis, on commence à nous préparer sur le fait que, à la naissance, on verra à la naissance comment c'est pour savoir quand est-ce que le bébé devra se faire opérer. On ne sait pas, une semaine, 2 mois après, on ne sait vraiment pas en fait. Quoi. C'est vraiment la surprise. Oui, parce que ça va vraiment dépendre de comment à la naissance il arrive à respirer. C'est vraiment qu'à ce moment-là, quoi. Donc, pour se préparer, c'est vraiment pas évident. Donc, voilà. Donc, la grossesse pas sereine du tout. On a du mal à se projeter. Enfin, moi, j'ai vraiment du mal, en tout cas. Je prépare les vêtements, mais que de naissance. Je me dis on verra après. Enfin, voilà, c'est un peu compliqué. Ouais. Et en plus, du coup, bébé fait son coquin et est en siège pendant toute la grossesse, ne veut surtout pas se retourner, donc du coup obligée de programmer une césarienne.
D'accord, à quel terme?
2 semaines avant, à quasiment 39 semaines, 38 plus 5. Voilà, on
a essayé des techniques pour essayer de le retourner, j'imagine.
Oui, j'ai fait. On n'a pas fait. Je sais plus comment ça s'appelle, où c'est les médecins qui essayent de tourner bébé. Ça, on l'a pas fait. Mais on a fait avec une acupunctrice. Des séances et en effet bébé a bougé mais qu'à 45 degrés, enfin que d'un quart de tour quoi, pas entièrement, donc non, c'était pas. Il a pas voulu, donc du coup obligé de programmer du coup la césarienne du coup en plus moi je peux pas avoir la péridurale parce que j'ai une scoliose tout ça, donc obligé rachianesthésie, donc il y avait tout ça en fait qui faisait que de toute façon.
Ça veut dire que c'est une anesthésie générale?
Alors, non. Du coup, j'ai quand même eu la rachianesthésie pour la césarienne, mais l'arachis, ça dure que 2 heures. D'accord. Donc, il faut bien, voilà. Donc, il faut pas trop que ça dure trop longtemps, parce que sinon, bah, après, oui, ils sont obligés de m'endormir. Mm-hmm. Donc là, l'accouchement se passe très bien. Voilà. Donc, c'est une fille, Marie-Charlotte. Elle sort en 2 minutes, hein, la césarienne, ça va hyper vite. Elle pleure, tout ça, super. Et par contre, la césarienne dure 1h30 pour moi au lieu d'une demi-heure parce que j'ai fait une petite hémorragie. Donc du coup, le temps de voilà de recoudre tout ça. Ils étaient à 2 doigts de m'endormir du coup parce que ça durait un petit peu trop longtemps. Mais bon, nickel. Donc voilà, je me remets super bien. On rentre dans la chambre. Voilà, elle va bien. Et donc du coup, ils lui font directement une petite échographie du cœur pour voir du coup ce qu'il en est. Et là, il s'avère que c'est quand même plus important que prévu. Donc en fait, elle a son aorte qui est fermée, qui est vraiment toute petite. Donc le sang a du mal à circuler. Toujours cette différence entre les deux ventricules, tout ça. Donc il s'avère que là, l'opération devra se faire dans les 8 jours. À 8 jours. Donc je l'ai eu avec moi pendant 24 heures. Elle a passé la nuit avec nous et le lendemain, du coup, elle a été directement en service de néonatologie, néonat, voilà, pour être vraiment sous plein de capteurs, pour la suivre de très près, pour être sûr que voilà que tout aille bien jusqu'à l'opération. Donc on peut aller la voir quand on veut, on fait les allers-retours. Moi, je suis quand même assez épuisée avec la petite hémorragie, ça m'a mis en anémie tout ça. Donc bon, c'est un petit peu fatigant cette semaine. Mais
Parce que toi du coup, on te décharge de l'hôpital, c'est ça ?
Non, je reste à l'hôpital. Je suis restée hospitalisée. D'accord. Du coup la semaine. Mais du coup entre ma chambre et le service de néonat, du coup on fait les allers-retours à chaque fois qu'on veut aller la voir. Quoi, je peux pas rester dans la chambre. Tout le temps avec elle, c'est pas possible. Faut qu'elle soit au calme, faut pas la stresser parce que c'est le cœur. Donc voilà, donc on fait les allers-retours et du coup, donc 8 jours après, elle a son opération du cœur qui dure toute la journée. C'est vraiment une grosse opération du cœur. Bon, je vous passerai les détails pour pas faire peur à certaines autres potentielles mamans qui nous écouteraient, mais c'est une très grosse opération, mais qui logiquement doit super bien marcher et après avec aucune séquelle par derrière. Sauf que malheureusement, elle va pas se réveiller de l'opération en fait. Donc l'opération avait marché et au moment en fait de la réanimer, on va dire, de refaire marcher le cœur, ça ne marche pas. Donc du coup, on a pu profiter d'elle que 8 jours. Donc là maintenant, j'en parle beaucoup plus facilement maintenant parce que ça fait 1 an et demi au moment où là on fait l'enregistrement. Donc 1 an et demi après, donc maintenant j'en parle vraiment très très ouvertement, même si forcément je craque très souvent, je pleure beaucoup. Mais voilà, j'ai quand même eu la chance de la connaître pendant 8 jours. Donc voilà, on essaye de se remémorer ces moments-là. Mais voilà, on va dire que ce bébé FIV, voilà, 7 transferts et en plus pour nous retirer notre bébé à la fin, quoi. Donc ça a été très très compliqué. Donc j'ai accouché en juin 2018. Donc là après on est ailleurs dans un autre monde, hein. On sait plus trop ce qui se passe. Enfin, il faut préparer l'enterrement. Nous on a choisi de l'enterrer au cimetière à côté de chez nous. Donc du coup c'est des choses que on n'a même pas imaginées, quoi. Donc des épreuves qui se rajoutent à tout ça. Et là c'est vraiment un trop plein d'émotions. Voilà.
Vous faites accompagner à ce moment-là ?
Alors non, on n'est pas accompagné parce que à l'hôpital on nous dit que si on veut voir une psychologue, ils nous donneront la carte, mais bon, sur le coup, on veut voir personne, en fait. On se rend. C'est ça, voilà. Ils nous disent, bon, si vous avez besoin, vous venez à l'hôpital. Enfin, voilà, il y a quelqu'un qui peut s'occuper de vous, mais bon, voilà, sans plus, quoi. Elle est décédée. Le lendemain, je rentrais chez moi. Moi, de toute façon, je voulais partir, quoi. Enfin, ça sert à rien de rester, quoi. Après, voilà. Et on veut voir personne. On s'enferme, en fait, sur nous-mêmes. Donc, de toute façon, même prendre une psy, nous, c'est trop tôt au démarrage, c'est beaucoup trop tôt. Donc, même si on a les amis, la famille qui sont là, mais bon, même eux, ils sont démunis, ils savent pas comment réagir à tout ça. Donc, c'est très compliqué cette fin d'année 2018 a été vraiment très très compliquée. Et du coup, tout de suite après, malheureusement, un mois après, j'avais déjà envie de refaire un enfant. C'est, on se projette, en fait, on essaye de se projeter dans l'avenir.
Bien sûr.
Voilà, on a envie de reporter la vie, quoi. C'est, on peut pas s'arrêter comme ça sur un décès, quoi. Et donc, un mois après, je voulais déjà essayer, enfin, je repensais déjà à refaire un enfant. Sauf que j'ai une césarienne. Et donc, du coup, obligée d'attendre un an. Et là, c'est pas possible. Un an, sauf que c'est un an obligatoire, en fait. C'est-à-dire que les médecins, dans tous les cas, ils voudront pas me faire la FIV. C'est pas comme si je pouvais essayer naturellement, en fait. Il y a certaines, on s'appelle des mamanges, hein, les mamans qui perdent des enfants. Je discute avec beaucoup de mamanges. Là, je découvre Instagram. je me mets à la mode et j'arrête les forums et je me mets sur Instagram. Et là, je découvre beaucoup de mamanges, du coup, qui me soutiennent beaucoup, qui ont connu la même chose que moi. Et là, par contre, c'est presque mieux qu'une psy à ce moment-là. Vraiment. Ouais.
Donc, j'ai une communauté
beaucoup...
qui
ah oui mais finalement j'ai eu beaucoup de soutien qui savent répondre aux questions, qui sont là à chaque instant. Dès qu'on va pas bien, il y a toujours quelqu'un qui est là pour nous remonter le moral, et puis des personnes qui comprennent notre parcours, hein. Parce que bon, la famille, oui, forcément ils ressentent notre détresse, mais ils ne savent pas comment réagir, alors que là les personnes ont les bons mots. Et donc là, je rencontre aussi des pémettes, des fivettes, donc des filles qui sont en PMA, en FIV. Et là, je découvre en fait un monde de femmes qui vivent la même chose que moi, plus ou moins, entre la PMA et la perte d'un enfant. Et là, c'est un vrai, vrai soutien. Donc je suis beaucoup sur les réseaux à ce moment-là. Vraiment depuis l'été 2018, quoi. En tout cas, pour attendre ce un an avant de pouvoir recommencer, du coup. Donc, on aurait dû attendre logiquement jusqu'en juin 2019. Sauf que moi, un peu pressée, du coup, j'arrive à ce qu'on soit de nouveau en route en avril. On peut se relancer en avril, du coup, 2019. Bon, on est à 10 mois, on n'est pas à 2 mois près. Voilà, là, du coup, on voit pas de problème, surtout que le temps de faire le transfert, tout ça, bon, voilà, c'est vite passé, un mois. Donc on retente, du coup, en avril 2019. Et il nous restait 3 embryons congelés de Marie-Charles.
D'accord, donc tu recommenceras de...
Oui. Pas de ponction, voilà, on redémarre tranquillement, on va dire. On sait qu'on a des embryons congelés, tout ça, donc on repart là-dedans. Toujours les mêmes traitements que à l'époque, donc toujours les 2 piqûres, les contrôles tous les 2-3 jours, tout ça. Là, je me dis, je fais comme la dernière fois, les mêmes traitements en plus, je refais le shiatsu, tout ça, tout, hein. Je me dis, ça va marcher du premier coup, là, c'est obligé, quoi. Et là, ça marche pas. Là, je me dis, mais non. Mais en fait, je croyais avoir trouvé le traitement miracle. Mais en fait, pas du tout, quoi. Enfin, je sais pas. On peut pas tout contrôler. Ouais, malheureusement, on peut pas contrôler. Alors, beaucoup me diront que psychologiquement, j'étais peut-être pas prête. Enfin, bon, il y a toujours, on essaye toujours de trouver des excuses.
C'est obligé, ce qui s'est passé.
Voilà, c'est ça. Mais j'avais remis le paquet, la même chose que quand ça avait marché, quoi. Et là, ça marche pas. Et là, franchement, là, c'est dur. Parce que je me dis quand même, bon, allez, peut-être que c'est que le corps était pas encore prêt. Bon, et ou que dans ma tête, je me disais qu'il fallait un an et que du coup, peut-être que ça me bloque psychologiquement. Donc, on attend et on refait donc avril. On a retenté en juin. Du coup, donc là, ça faisait un an. Je me suis dit, en plus, si ça marche et tout, ça sera un signe, ça fera un an, tout ça. Enfin, voilà, ça serait magnifique, quoi. Et là, ça marche pas. Et là, j'ai eu des symptômes en plus d'hyperstimulation. J'y ai cru. Oh, je me suis dit, oh là là, ça y est, j'ai le ventre qui grossit et tout. Je fais, oh là là, ça y est, c'est bon, quoi. Et là, non, mais vraiment rien de rien. La prise de sang, vraiment zéro. Oh, trop dur, trop dur. Là, je me dis, mais c'est pas possible. En fait, je vais jamais y arriver à retomber enceinte. Ouais. Quoi, ça se trouve, la seule fois où ça va avoir marché, c'est pour un bébé que j'aurais même pas... pour le reste de ma vie, quoi. Donc, très dur. Là, j'ai senti le moral qui a complètement chuté. Là, à partir de cet été 2019, pardon. Là, très dur psychologiquement. Donc, bon, j'ai essayé de refaire, voilà, des séances de shiatsu pour me redétendre. Bon.
Tu fais une pause, du coup, à ce moment-là?
Je fais une pause parce que c'est l'été.
Ah oui, c'est vrai.
Et voilà, obligé. pas le choix. Mmh. Et là, en fait, j'ai envie de pousser les examens, en fait. Je me dis, mais c'est pas possible. En fait, j'en suis déjà à mon 9e transfert. À un moment donné, il faut qu'on me trouve quelque chose, quoi. Il y a bien une raison que ça ne marche pas. Donc, du coup, j'embête, je reprends rendez-vous avec la gynéco et là, je lui sors une liste de, au moins, je sais pas, 12 examens. Je lui dis, je veux une hystéroscopie, une hystérosalpingographie, tout ce que j'ai jamais eu, en fait. J'ai jamais rien eu, un karyotype, ouais. Enfin, plein de trucs. Et elle veut rien me faire. Elle ne veut rien me faire parce qu'elle considère que comme j'ai déjà eu une grossesse, c'est sûr savoir marcher. Et là, on sort. Ah oui, non, mais là, c'est pas possible. En fait, les gens ne nous comprennent pas. Et là, on est très mal entouré, en fait. Là, au niveau des médecins, là, c'est compliqué parce que du coup, ils ne se rendent pas compte. Je pense qu'on est de plus en plus, malheureusement, de couples à passer par la PMA. Et je pense qu'on est malheureusement que des numéros et des patients à la chaîne. Et que, bah, moi, sur les papiers, tout va bien. Donc, il n'y a pas de raison de s'embêter, on va dire, à aller plus loin, quoi. Donc là, c'est assez dur.
T'as pas pensé à essayer de voir quelqu'un d'autre?
Alors, bah, le truc, c'est qu'on pourrait changer de centre. Moi, je suis à l'hôpital, c'est en public, on pourrait passer en privé. Mais c'est à l'autre bout de Toulouse. Pour moi, ça me rajoute beaucoup de bouchons, de kilomètres. Il faut refaire tous les examens. Ouais. Enfin, j'ai pas envie de rattendre.
Ah, ouais, faut recommencer à zéro. Ouais.
Voilà. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est, non. Donc je me dis, non, pas encore, à changer. Ouais. Et alors là, par contre, du coup, j'ai une super communauté sur Instagram, donc j'ai beaucoup de filles qui me donnent des conseils et qui me parlent de l'examen Matrice Lab. C'est une biopsie de l'endomètre au moment de la nidation, du coup, qui permet de voir au niveau anticorps, immunité, ce qui se passe à ce moment-là. En gros, si le corps rejette les embryons, ça permet d'avoir des infos en plus suite aux échecs implantatoires à répétition. Donc du coup, je demande à la gynéco absolument, elle veut rien me faire faire. Je fais ça, par contre, ça, je veux qu'on le fasse. Mm-hmm. Ce n'est pas remboursé, ça coûte 500 €. Parce que c'est un laboratoire indépendant. Tous les gynécos ne sont pas forcément pour parce que c'est pas encore prouvé au niveau statistique que ça apporte quelque chose. Mais moi, dans ma tête, je veux un examen et donc ça, je le veux. Donc ça, elle accepte. D'accord. Parce que du coup, comme c'est moi qui paye, ça, elle veut bien. Donc là, c'était en juillet que je l'ai vue. Donc logiquement, en septembre, je devais faire la Matrice Lab, du coup, l'examen. Donc début septembre, du coup, j'appelle, premier jour de règle pour prendre rendez-vous à la date à J20 du cycle pour tomber au moment de la nidation. Et là, le médecin pas dispo. Cette semaine-là, il est en congé. Il n'y a qu'un seul médecin dans l'hôpital qui fait ça. C'est pas possible. Obligé d'attendre encore un cycle. Mais c'est pas possible. Écoutez, il me reste des embryons. Vous me faites un transfert. tant pis. On verra plus tard pour l'examen. On fait le transfert. Puis je me dis, ça se trouve, c'est peut-être le destin. On verra. Donc bon, on fait le transfert du coup au mois de septembre. Il me reste 2 embryons congelés. Et là, par contre, je réagis pas du tout comme d'habitude. Là, j'ai beaucoup plus de mal à ce que mon corps réagisse. Bizarre. Mon endomètre, là, il s'écroule en un moment, puis il repart. Enfin, j'ai cru que mon corps ne réagissait plus du tout. Puis on arrive quand même à faire le transfert d'un embryon, donc à 2 jours. Par contre, qui s'est très mal décongelé, a perdu la moitié de ses cellules. Oh, donc là, je me dis, oh là là, celui-là, il est pourri, quoi. Enfin, ça marchera pas. Et là, le biologiste me propose d'en transférer un deuxième. Le dernier qui me reste, qui lui est à 5 jours. Donc, c'est-à-dire revenir dans 3 jours pour me l'implanter aussi. Vu que le premier, on n'y croit pas trop, quoi. Mmh. Donc, 3 jours après, du coup, j'attends le coup de téléphone pour y aller, du coup, parce qu'on attend d'être sûr que ça se soit bien décongelé. Et là, pour la première fois de ma vie, l'embryon ne se décongèle pas. Enfin, meurt à la décongélation. Mmh. Oh, donc là, en fait, je me dis, mais mon corps, il réagit plus. Donc là, j'ai plus d'embryon. Enfin, j'ai celui qu'on m'a transféré, mais qui est pas de top qualité, quoi. Là, je me dis, ça marchera jamais, quoi. Ça marchera pas. Donc là, on fait la prise de 115 jours après. Et là, j'ai un petit taux à 50. Ah. Mais je l'avais fait un petit peu tôt. J'avais fait quelques tests de grossesse, tout ça. Ouais. Là, je commence un peu à psychoter avec le temps. Et là, je fais une prise de sang à 50.
mais j'étais un peu plus tôt et je me disais, ah, c'est un petit tôt, mais peut-être. J'avais des témoignages de filles où ça pouvait augmenter. Donc, j'en refais une prise de sang le lendemain, ça avait augmenté un tout petit peu, mais pas assez. Et après, donc, c'était le week-end, donc obligé d'attendre le lundi. Là, le lundi, tout s'écroule. Voilà, ça retombe à zéro, quoi. Donc, la grosse déception, parce que du coup, ça s'est accroché, malgré que l'embryon n'était pas top, ça s'est accroché, mais en tout cas, voilà, ça ne donne toujours rien. Donc, j'ai eu un cycle vraiment bizarre, parce que je pense que ça a dû faire une mini fausse couche, enfin, j'en sais rien. Donc, ça a été compliqué de savoir le premier jour de règles pour justement faire l'examen, ah, oui, la matrice lab, que je voulais enchaîner. Donc, obligé encore d'attendre un mois. Enfin, bon, ça a été... À décaler. Et donc, du coup, j'ai pu faire cet examen au mois de décembre.
D'accord.
Parce que dans tous les cas, là, je suis obligée de repartir sur une FIV entière. Donc, ce que, en France, quand on a un enfant, on peut repartir sur 4 FIV entières.
D'accord.
C'est-à-dire que là, je vais repartir sur 4 FIV. Donc, c'est l'avantage que j'ai. C'est que, voilà, malgré que j'ai perdu mon bébé, ça peut repartir à zéro. Donc, heureusement, sinon, il m'aurait resté qu'un essai. Ouais. Donc, ça commence à me stresser. Donc là, je vais pouvoir repartir à zéro. Sauf que voilà, je veux faire l'examen absolument avant de repartir sur cette FIV pour avoir toutes les clés en main et le faire correctement. Donc là, on est le 1er janvier. Et donc, j'attends les résultats. Je pense les avoir semaine prochaine pour justement après pouvoir réattaquer cette nouvelle FIV sur le prochain cycle ou celui d'après.
D'accord.
Du coup, en espérant que par les résultats, on pourra adapter le traitement et que ça marche, quoi. Et que ça marche. Bah, je ne perds pas espoir.
Bien sûr. Non, c'est un parcours super impressionnant. Et alors, il y a quelque chose que tu as fait que je trouve absolument génial. Donc pendant cette année après le décès de Marie-Charlotte, où tu as voulu préparer quelque chose de particulier pour son premier anniversaire, tu peux nous raconter un petit peu ce que tu as fait et puis ça t'a permis de créer aussi pendant cette année-là. Tu peux nous raconter un petit peu?
Oui, alors tout à fait. En fait, l'été 2018, donc où j'ai été beaucoup sur les réseaux sociaux, c'est là où j'ai découvert toute une communauté de filles qui sont en parcours PMA et on voit bien que tout le monde a besoin d'en parler. C'est quand même un sujet assez tabou. Comme je disais, les premières années, j'en parlais à personne parce que on a envie de faire la surprise à tout notre entourage et c'est difficile pour nous à vivre parce que on peut en parler à personne, on n'a aucun ressenti. Sur les forums, c'est bien, mais on ne peut pas chatter, c'est-à-dire que c'est des messages laissés. Donc le retour, on l'a que le lendemain, que deux jours après. Enfin, c'est pas du tac au tac. Et là, sur les réseaux, vraiment, c'est juste génial parce que il y a toujours quelqu'un qui est là pour répondre à ces questions, mais là, dans les deux minutes, qui est là pour t'encourager quand tu dis que tu vas avoir ton transfert demain et toutes les filles sont là. Oui, super, on croise les doigts, on pense à toi. Enfin, il y a un soutien qui fait vraiment du bien. Et du coup, en fait, moi, je me suis rendu compte que, voilà, dans ce parcours PMA, on n'était pas du tout accompagné, très mal accompagné. En tout cas, enfin, voilà, les médecins ne nous prennent pas forcément, ne prennent pas nos émotions en considération. On est obligés tous d'aller sur les médecines douces, tout ça, à côté pour trouver, un peu de réconfort. Et donc, du coup, j'ai voulu marquer le coup pour les 1 an de Marie-Charlotte, donc en juin 2019, j'ai créé ma petite entreprise, donc qui pour l'instant est un complément en plus. Je ne peux pas encore me permettre de quitter mon travail à côté, mais voilà, en début d'année 2019, j'ai eu l'idée de créer une petite boutique en ligne qui s'appelle Baby Hope, donc bébé espoir. J'ai voulu un nom assez qui marque assez nos parcours. Et donc en fait, sur cette petite boutique en ligne, j'ai mis plein de petites choses pour nous accompagner sur nos parcours. C'est-à-dire que tout est fait pour les femmes enceintes, tout est fait pour les nourrissons, les bébés, mais rien n'est fait pour toutes les femmes qui essayent d'avoir un enfant, alors que quand même, c'est nous qui avons quand même beaucoup besoin de soutien. Donc j'ai voulu créer un endroit déjà.
Et puis il y en a beaucoup en plus.
Mais oui, et puis toutes celles qui sont devenues enceintes, forcément, elles ont essayé elles ont essayé avant. Donc après, toutes n'ont pas eu des difficultés, mais quand même de plus en plus de nos jours, voilà, on met quand même plusieurs mois avant de tomber enceinte. Donc voilà, donc déjà c'est une communauté que j'ai voulu créer sur Instagram, voilà, poser des questions. Quand quelqu'un a une question, bah je la reposte moi, comme ça il y a toujours des réponses à apporter. Voilà, j'essaie d'apporter parce que je souris beaucoup, c'est ce que les gens me disent énormément, et donc du coup ma bonne humeur et mon optimisme ont l'air de plaire. Donc du coup voilà, j'ai voulu essayer d'apporter un peu de joie dans ces parcours qui sont assez difficiles à tout le monde. Malheureusement, j'ai une expérience qui fait que je peux répondre à quelques questions. J'ai un recul là-dessus qui fait que si je peux essayer de donner des conseils de choses que à l'époque je n'ai pas fait et que je m'en suis rendu compte trop tard et que je peux faire gagner quelques mois, quelques années à certaines personnes, j'essaye. Et donc sur la petite boutique, du coup, on y trouve des petites trousses isothermes, par exemple, pour transporter ses piqûres. C'est-à-dire que quand on est en parcours PMA, les piqûres, il y en a certaines qui doivent être gardées au frais, au frigo. Oui. Donc du coup, pendant 15 jours, on sort pas de chez soi parce que le soir, on va pas chez nos amis parce qu'on se dit, non, j'ai ma piqûre à 21h à faire. Donc en fait, pour essayer un petit peu de positiver et de... Oui, c'est tout ce qui est positive attitude, bien-être. Il y a des bouillottes pour se faire du bien pendant les règles douloureuses. Il y a des brassées de fertilité sur la lithothérapie pour essayer de trouver des choses qui vont pouvoir nous booster, quoi. Donc là, ça fait 6 mois que la petite boutique est créée. J'en suis ravie. Tout le monde a l'air d'adorer. Et donc là, du coup, mon prochain projet pour 2020, qui va sortir là en février, il me reste un mois pour le lancer. Je suis en train de créer des Hop Box, donc des box de l'espoir. En fait, c'est des box par abonnement. On en trouve beaucoup, des box de grossesse, là où tous les mois, pendant sa grossesse, on reçoit des produits de beauté, des produits pour futur bébé. Du coup, je me suis dit, pourquoi nous aussi, on pourrait pas se faire plaisir à tous les mois recevoir des petites choses pour se faire plaisir et continuer à garder espoir dans ce parcours. Donc dans la box, il y aura un produit bien-être, un produit pour la fertilité et un produit de positive attitude, vraiment pour se booster. Et du coup, je travaille en collaboration avec Anna, qui est sophrologue et naturopathe, et Kaliane, qui fait du yoga de la fertilité, qui vont justement aussi créer des vidéos en ligne, des podcasts, pour justement apporter aussi ce qu'on appelle la médecine douce, mais un recul en fait aussi sur ces parcours pour apprendre à prendre soin de soi, à positiver, à déstresser. Donc c'est vraiment tout un projet qui est en train de se lancer et qui va sortir là au mois de février. C'est mon bébé à moi, du coup, celui où je peux tout maîtriser en fait.
Ouais, c'est ça. Mais c'est génial. Franchement, félicitations. C'est une super idée. Et justement, là, tu as lancé une campagne de financement participatif pour le lancement de ces box, c'est ça?
C'est ça, tout à fait. Pour que justement, ça soit les précommandes, pour que les filles puissent les précommander et pour justement aussi m'aider à ce que ça soit vu, que ça puisse faire de la publicité et en parler aussi, parce que je veux que la PMA soit moins tabou, je veux que ces femmes qui sont dans l'ombre et qui pleurent le soir parce qu'elles n'arrivent pas à tomber enceinte puissent réussir à trouver dans un article, dans un journal ou quelque chose qui puisse leur rendre un peu d'espoir et leur rendre le sourire au quotidien. Cette campagne permet aussi de rendre plus professionnel ce projet, parce que tout simplement ça demande des moyens en communication, faut refaire le site internet, faut créer les box, tout ça. Donc ça me permet de travailler avec des professionnels à côté pour sortir quelque chose de pro, quoi. Je veux vraiment que ça soit.
Alors, on est jusqu'à quand pour contribuer?
Jusqu'au 31 janvier, du coup. Voilà, jusqu'au 31 janvier, pour que du coup vous puissiez recevoir la première box début février. Après, c'est soit de la précommande, soit c'est juste un don, on va dire, pour le projet. À partir de 1 euro, vous pouvez mettre 1 euro dans la cagnotte. Voilà, ça permet de faire avancer le projet et de les rendre le plus chouette possible pour la suite.
Ok, mais écoute, c'est super. Je mettrai le lien dans les notes du podcast pour qu'on puisse aller jeter un œil. Et tu livres, de ce que je regardais, on peut contribuer d'un peu partout dans le monde.
Oui, tout à fait. C'est voilà, de toute façon, c'est payable en carte bleue. Donc après, n'importe qui peut y avoir accès. Et après, la livraison, j'en ai. Pour l'instant, j'ai eu des commandes en Écosse. J'en ai eu en Belgique, en Suisse. Voilà, par rapport à la France, c'est bon, c'est plus près. Mais l'île de la Réunion. Enfin voilà, ça. Il y a des Françaises d'un peu partout. Donc donc oui, je livre avec plaisir. Et après, on adapte voilà juste les frais de port en fonction de là où est la personne, quoi. Mais oui, je veux que ça soit ouvert au plus de monde possible.
Écoute, c'est génial. Je te félicite. Merci pour tout ça, en tout cas, Flavie. Merci de partager et merci de nous aider, en fait, à rompre un peu tous ces tabous sur tous les sujets qu'on a abordés aujourd'hui. Je sais que tu as énormément, du coup, d'expérience, que tu as aussi pu échanger beaucoup avec la communauté en ligne, entre autres choses. Est-ce que tu aurais des conseils à partager avec les auditeurs et les auditrices qui passent par là, eux aussi?
Alors, je voudrais juste rajouter, justement, à toutes celles qui écouteront ce podcast, que de toujours garder espoir, de ne pas baisser les bras. C'est dur à dire, hein, parce que quand on enchaîne les échecs, c'est vraiment très dur. Voilà, que ça soit par la PMA ou par l'adoption ou par quoi autre solution pour que vous puissiez avoir accès à cette maternité, il faut se battre jusqu'au bout. Les médecins, voilà, prenez rendez-vous, demandez des examens, enfin, ne lâchez rien. Il faut se battre vraiment. Il faut que vous soyez active dans ce projet de bébé. Ça nous enlève déjà beaucoup de choses, le fait de pas pouvoir concevoir naturellement. Hein. On peut pas juste, voilà, enfin, pour comme les personnes par exemple comme moi, où il y a vraiment une infertilité, on peut pas faire de bébé naturellement. Donc tout est médicalisé. Donc, il faut vraiment que, bah, quand vous soyez en parcours, voilà, vous soyez active, ne vous laissez pas faire, on va dire, ne subissez pas la chose. Voilà, soyez active dans vos essais et prenez du temps pour vous. Faites pas comme moi depuis des années à vouloir enchaîner et à un moment donné, on tient pas, on s'épuise, que ce soit physiquement ou moralement. Et il y a besoin de coupures, de moments en couple aussi. C'est ça, souvent aussi, on s'oublie dans le couple. Donc voilà, prenez un week-end, des vacances, allez au cinéma. C'est des petites choses toutes bêtes, mais voilà, pensez à vous deux en priorité. Et voilà, gardez espoir en tout cas sur cette année 2020. Et je vous souhaite que voilà, qu'en 2020, votre ventre soit tout plein.
C'est super comme conclusion. Merci beaucoup Flavie. Si nos auditeurs veulent continuer la conversation avec toi, ils peuvent te retrouver où du coup?
Alors, ils peuvent me retrouver soit sur Instagram ou sur Facebook, du coup avec le pseudo donc babyhope.fr, et ou après directement donc sur le site internet. Il y a un formulaire de contact aussi si les personnes préfèrent plutôt par mail, parce qu'ils ne sont pas trop réseaux sociaux. Voilà, je suis dispo par mail ou sur les réseaux sans problème.
Super. Mais écoute, un grand, grand merci, Flavie. On te souhaite tout le meilleur pour votre parcours. On est au tout début de 2020. On a toute une année à écrire. Et je te souhaite sincèrement à toi et ton mari de pouvoir continuer la création de votre famille. Merci beaucoup, Flavie.
Merci à toi. Au revoir.
Et voilà, c'est la fin de ce tout premier épisode de Alors c'est pour bientôt, le podcast. J'espère qu'il vous a plu. Retrouvez le podcast un mercredi sur deux sur toutes les plateformes de podcast. En attendant, si vous souhaitez plus d'informations sur le podcast et mes invités, direction le compte Instagram Alors c'est pour bientôt podcast ou sur le site internet alorscestpourbientotpodcast.com. Si cet épisode vous a plu, rendez-vous sur Apple Podcast pour me le dire avec plein d'étoiles et un commentaire. C'est le meilleur moyen de m'aider et de permettre au podcast de trouver d'autres auditeurs que le podcast pourrait intéresser. Si vous souhaitez témoigner, n'hésitez pas à m'écrire directement sur Instagram. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à mercredi.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.